Pour le cas de l'Afrique que je connais assez bien, il y a à peu près 300 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et pour gérer ce problème, il va falloir que les politiques prennent à bras le corps ce domaine et qu'ils mettent beaucoup d'argent dans le domaine de l'eau et faire beaucoup plus de sensibilisation pour que les gens aillent sur le changement de comportement. C'est un peu plus ça. Parce que pour le cas des sociétés africaines, les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur les questions des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Et ça pose sérieusement des problèmes sanitaires qu'il va falloir résoudre plus tard en termes de soigner les gens. C'est des coûts extrêmes. Donc moi, je pense que pour gérer la question, il faut vraiment que les gouvernants, les décideurs ou les partenaires techniques mettre un peu plus de ressources pour que les États puissent les mettre à bon escient, c'est-à-dire amener l'eau vers les populations au maximum 300 mètres, pas loin des populations, et une quantité d'eau potable, parce qu'il ne suffit pas de donner de l'eau, mais il faut que ce soit de l'eau bien potable qui puisse servir aux femmes, aux enfants et aux animaux aussi.
Vous faites bien de parler de cela. Selon le même document sur l'eau, l'accès insuffisant à une eau potable de qualité coûte cher en vie humaine, avec 780 000 décès causés par la dysenterie et le choléra chaque année. C'est bien plus que les victimes de conflits, de séismes et d'épidémies. Comment faire pour une meilleure gestion de l'eau?
Pour faire une bonne gestion de l'eau, il faut que chacun de nous d'abord prenne conscience que l'eau est une ressource extrêmement importante, individuellement d'abord. Quel que soit au niveau qu'on se retrouve, que la gestion de l'eau soit d'abord une affaire personnelle, ensuite une affaire familiale, ensuite une affaire de collectivité, ensuite au niveau étatique. Voilà comment je vois le paradigme par lequel il faut passer pour que l'eau vraiment soit bien gérée par les populations. Il faut travailler dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur le gaspillage de l'eau, parce que beaucoup d'enfants gaspillent de l'eau. Il faut aussi travailler sur la gestion intégrée des ressources en eau, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs qui se mettent ensemble maintenant pour gérer l'eau, mais qui n'utilisent pas l'eau de la même manière. Il y en a qui utilisent l'eau parcimonieusement, il y en a qui l'utilisent vraiment avec beaucoup plus de cupidité. Je prends par exemple l'exemple du bâtiment. Quand vous aviez des gens qui viennent pour faire des routes, ils prennent suffisamment beaucoup d'eau sur les barrages et au détriment des agriculteurs, au détriment des pêcheurs, ainsi de suite. Donc, il faut repenser toutes ces politiques-là, d'abord au niveau individuel, au niveau familial, au niveau collectivité, au niveau étatique. Maintenant, faire ce qu'on appelle une gestion intégrée de la ressource. La gestion intégrée, ça suppose que nous devons nous mettre ensemble pour exploiter rationnellement la ressource, parcimonieusement la ressource, et en tenant compte aussi des animaux et aussi des plantes. Parce que ça, ils font partie de notre environnement, sans lesquels nous ne sommes plus des hommes. Donc, moi, je vois un peu la chose comme ça. Et tant qu'on n'arrivera pas à cette situation, nous allons aller vers la catastrophe, parce que la ressource se raréfie de jour en jour. Nous sommes dans ce qu'on appelle aujourd'hui un stress hydrique important. L'eau tarit de plus en plus. Les pluies sont très rares et quand elles tombent, elles ne sont pas suffisantes pour atteindre les ressources domestiques des populations. Mmh. Donc voilà un peu comment moi je vois la chose.
Alors, M. Samoura, vous êtes un passionné de l'eau. Vous avez construit un musée de l'eau sur un site à 30 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Votre initiative correspond à quel besoin concrètement?
Le musée de l'eau est dans un contexte d'un pays comme le Burkina Faso. Pour ceux qui connaissent pas le Burkina, c'est un pays très désertique, qui n'a aucun accès sur la mer et qui, bon an, mal an, la pluviométrie tourne autour de 600, entre 600 et 800 millimètres an. Et moi, j'ai pensé qu'il était bon, dans ce contexte de pénurie d'eau ou de difficulté d'accès à l'eau, de poser la problématique de l'eau autrement, c'est-à-dire en d'autres termes, faire un espace muséal à partir duquel on peut montrer l'eau dans une vision holistique. En français facile, on dira l'eau dans la culture, l'eau dans la sociologie, l'eau dans l'anthropologie, l'eau dans la cosmogonie, ainsi de suite. Donc, l'eau dans les perceptions des populations. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de valoriser l'eau à travers les ustensiles. Je vous donne un exemple. Une femme qui va chercher de l'eau avec sa ruche pendant 5 ans. Et un jour, la ruche, elle trébuche, la ruche se casse et l'eau va se verser naturellement. Je pense que ce qui va beaucoup plus faire à cette dame brave, ce n'est pas l'eau versée, mais c'est la ruche qui est cassée. Donc, l'ustensile devient un aspect important dans la vie des populations. C'est-à-dire les récipients, tout ce qui peut entrer en contact entre l'homme et l'eau, il faut vraiment les capitaliser, il faut les mettre et puis de leur donner de la valeur. Et le contenu et le contenant vont toujours ensemble. Malheureusement, on voit que l'eau, on oublie l'aspect matériel qui peut aider à faire ça. Le musée de l'eau, c'est ça. L'autre aspect, c'est l'aspect immatériel. C'est-à-dire que tout ce qui est chant, chanson, mythe, proverbes qui peuvent aider à sensibiliser les gens sur la problématique de l'eau, former, éduquer. Et ça, il faut le préserver parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous fait d'oublier sur la question de l'eau. Les proverbes, les légendes, les mythes, les contes, tout ça, c'est en train de disparaître. Il faut le mettre dans un espace muséal qu'on va appeler donc patrimoine immatériel, qui va servir donc à sensibiliser, à former, éduquer. Et voilà, c'est ça qui va permettre de mieux connaître la ressource.
Oui, alors vous, à terme, c'est quoi votre objectif ?
L'objectif, je vais dire que j'ai même une vision. Ce n'est plus un objectif, c'est toute une vision. C'est de faire un musée mondial de l'eau, parce que ma conviction est qu'on peut, à partir de ce petit espace muséal, en faire le plus grand espace muséal de l'eau en Afrique et même dans le monde. Parce que le milieu de l'eau, est, comme nous sommes au Burkina, nous sommes au carrefour de tous les pays de la sous-région, il est facile de faire une très bonne collecte de tous ces objets-là et de les mettre au musée. Donc, objectif, c'est d'aller à ce qu'on va appeler un musée mondial de l'eau, où on va retrouver tous les ustensiles et les récipients de l'eau dans cet espace muséal-là. Tous ceux qui peuvent être, tous ceux qui, on va dire tout le monde, parce que tout le monde a accès à l'eau, et que les gens comprennent encore que l'eau reste la denrée la plus importante de la planète. C'est un patrimoine à préserver inéluctablement.
Oui, surtout pour éviter les conflits autour de l'eau. Hein.
Oui, les conflits, ça, en Afrique, c'est bon. Même à la base, on voit déjà entre les agriculteurs et les éleveurs. Et je parlais tantôt de la gestion intégrée des ressources en eau. Souvent, vous aviez les gens du bâtiment qui ne sont pas d'accord, ne sont pas d'accord avec les maraîchers. Et aujourd'hui, on a des sociétés minières qui nous posent aussi des sérieux problèmes, qui vont chercher l'eau à des profondeurs extraordinaires et qui tarissent les nappes, ainsi de suite, ou bien qui diversent souvent des quantités d'eau dans la nature comme ça, qui sont des eaux très toxiques souvent, à la limite, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme élément chimique dans ces eaux-là. Bon, voilà, il y a tout cet aspect sur lequel il faut travailler dans le musée de l'eau. Le musée n'a pas d'apport, n'a pas de soutien financier. Et vous savez que les musées en Afrique, on ne peut pas, à partir des visites, supporter un musée. Il faut qu'il y ait de l'apport financier, ou des subventions financières, ou des canons financiers, des dons, qui peuvent permettre à ce petit musée-là de progresser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous avons en face de nous certains décideurs qui n'ont pas encore compris que les musées doivent être supportés. L'État doit aider les musées à avoir une petite cagnotte pour pouvoir bien fonctionner.